Le journal, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À quoi pensent les catholiques lorsque le sujet de l'élection présidentielle vient sur la table? Le mieux, c'est encore de leur poser la question et le résultat du sondage IFOP Le Perlin Magazine pour Europe 1 nous éclaire sur leurs intentions de vote. Le régalien prime sur la foi, la santé, la sécurité et la lutte contre la délinquance auront une influence sur le choix du candidat. La question religieuse, eh bien, elle est reléguée très loin, Céline Géraud.
Oui, c'est l'un des résultats étonnants de ce sondage. Seuls 23% des catholiques déclarent que leur conviction religieuse orientera leur vote. Cela monte à 57% pour le panel des pratiquants réguliers. Autre indicateur marquant, les catholiques ont conscience d'être devenus minoritaires dans le pays. Il y a 50 ans, 25% des Français fréquentaient les églises. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5%. Ce sentiment de marginalisation sociale est d'ailleurs assumé, pour preuve, 82% des sondés ne s'estiment pas pris en compte par les dirigeants politiques en tant que catholiques. Quant à leurs priorités pour la campagne, après la santé, il y a la sécurité et la lutte contre le terrorisme pour 81% des sondés, agir contre la délinquance et l'immigration clandestine pour 75% et 72% des personnes interrogées. Enfin, à propos de la GPA, gestation pour autrui, et de l'euthanasie, là aussi le chiffre peut surprendre. Seuls 25% des catholiques considèrent que c'est primordial pour la présidentielle, les sujets régaliens restant leur préoccupation principale actuellement.
Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1.
Dans le Vaucluse, la traque est terminée. L'homme suspecté de meurtre vient d'être interpellé.
Les gendarmes confirment son interpellation au terme d'une immense chasse à l'homme dans les environs de Bolène. L'homme est soupçonné d'avoir décapité et éviscéré son grand-père. Le mobile reste inconnu à ce stade, mais le parquet de Carpentras exclut la piste de l'attaque terroriste.
Mais comment parler de l'inceste? Quelle réponse apporter aux victimes? La commission indépendante sur l'inceste a décidé d'aller à leur rencontre.
Et dans la droite ligne du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église, la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, entame un tour de France. Première étape donc hier et première réunion publique à Nantes pour encourager les victimes à parler. Reportage de notre correspondante sur place, Sandrine Prioul.
Mesdames et messieurs, nous pensons que parmi vous sont présents des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Nous vous croyons.
Des victimes, des témoins, des aidants venus par dizaines libérer leurs mots. Comme on ouvre un robinet, la parole est crue. Le père, le frère devenu violeur à répétition. L'effet cathartique est immédiat pour Sylvie, 13 ans, d'une enfance détruite dans le huis clos familial.
Moi, j'ai vécu l'inceste. Aujourd'hui, je commence à...
D'avoir déjà parlé comme ça, parce que c'est la première fois, j'ai la gorge toujours serrée, je tremble toujours. Et je me rends compte que je me réveille au bout de 30 ans d'avoir vécu ça. C'était tellement bloqué au fond de moi, il fallait que ça sorte et je ne pouvais plus.
Pendant 2 heures, la parole est cette fois écoutée. La commission et son président, Édouard Durand, promettent que plus jamais elle ne sera remise en doute.
Toute la société a vu que ce mouvement qui était souterrain est sorti et s'est exprimé d'une manière extrêmement massive. Et il nous fallait franchir ce pas supplémentaire en nous déplaçant à la rencontre des personnes victimes.
Mais cet ancien juge pour enfants, c'est surtout qu'il fait naître ici des attentes fortes auxquelles il faudra vite répondre. Nantes, Sandrine Prioul, Europe 1.
Et on parlait de la tempête Aurore juste avant le début de ce journal avec Anissa Dadi. Tout le trafic SNCF sur les lignes normandes est interrompu jusqu'à 10h ce matin sur le réseau RER et Transilien en Ile-de-France. Trafic fortement perturbé sur le RER A, B, C et D. Il est complètement interrompu en fonction de certaines lignes, et notamment sur le réseau U et L.
Voilà, renseignez-vous donc avant de vous diriger vers la gare ce matin. Le prix de l'essence continue de grimper. Ses ventes également, ça c'est plus surprenant.
1,66€ le litre de sans plomb 95 en moyenne, 1,56€ pour le gasoil. D'une région à l'autre, d'un département à l'autre, on peut tutoyer le plafond des 2€. Mais le plus étonnant, Martin Lange, c'est qu'en face de cette hausse, eh bien, les ventes de carburant ne s'effondrent pas, bien au contraire.
Oui, elles sont même en hausse, hein, plus 3,5% en un an entre septembre 2020 et septembre 2021. Les Français continuent donc à acheter massivement du carburant. Petite précision tout de même, hein, l'an dernier, l'épidémie de coronavirus perturbait encore l'activité économique. Pour Francis Pousse, hein, du Conseil national des professions de l'automobile, l'année 2021 s'annonce même comme un très bon cru pour les distributeurs.
La reprise économique justifie en partie cette hausse, mais il semblerait qu'on soit aussi un peu meilleur par rapport à 2019. En revanche, on se rend compte que les stations en zone rurale, elles, ont plus de mal à maintenir leur volume.
Et oui, car si on regarde les chiffres dans le détail, on se rend compte que l'achat de carburant est maintenu par les professionnels. Chez les particuliers, la hausse des prix commence à se faire ressentir. Depuis le 15 octobre, leur consommation a baissé de 5 à 7%.
Martin Ange avec la collaboration de Maud Descartes. Descamps du service économie d'Europe 1.
Parfois, pour se refaire une image, rien de mieux que de changer de nom. Figurez-vous que Facebook pourrait bientôt sauter le pas et donc ne plus s'appeler Facebook.
Le réseau social pourrait annoncer la semaine prochaine la création d'une maison mère qui regrouperait ses différents services comme WhatsApp et Instagram par exemple. Certains y voient une astuce pour tenter de débarrasser l'entreprise d'un nom devenu trop lourd à porter à force de polémiques, Alexis Guilleux.
Oui, accusé de déstabiliser les démocraties, d'avoir une influence néfaste sur les adolescents, Facebook pourrait utiliser ce changement de nom pour mettre de côté son image négative. Andy Wu est professeur à l'école de commerce d'Harvard.
Quand on regarde les changements de nom d'autres entreprises, on constate qu'ils sont motivés soit par la volonté de mettre à distance des polémiques existantes, soit par celle de mettre l'accent sur la croissance future de l'entreprise.
Alors Andy Wu n'oublie pas le potentiel économique de ce changement, attirer de nouveaux investisseurs intéressés par les projets de réalité virtuelle de Facebook, mais cela ne suffira pas à redorer l'image du groupe de Mark Zuckerberg.
Facebook fait face à une crise d'identité. Je pense que les problèmes auxquels ils sont confrontés sont plus importants qu'un problème de marketing. Fomenter des troubles civils, créer des problèmes d'image corporelle, ça existera encore à l'avenir. Il existe toujours des problèmes intrinsèques aux réseaux sociaux et Facebook reste un réseau social.
De son côté, le groupe Facebook a refusé de commenter ce qu'il appelle des rumeurs et des spéculations.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Dans l'actualité des réseaux sociaux, Donald Trump vient d'annoncer la mise en ligne de son réseau social à lui, Truth Social, c'est ça, riposte hein, à Facebook et autres GAFA dont il estime qu'il empêche l'expression de certaines voix, notamment de la sienne. On va bientôt fêter le centenaire de sa naissance demain, mais Europe 1 n'attend pas pour célébrer un poète qui a laissé plus qu'une trace dans l'histoire de la chanson française.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat.
Georges Brassens a vu le jour le 22 octobre 1921 à 7. Notre antenne va lui consacrer effectivement une série d'hommages à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain avec des archives et des extraits exclusifs. Europe 1 entretient une histoire un peu à part avec Georges Brassens. Ses textes jugés trop osés et polémiques à l'époque ne trouvaient aucun écho radiophonique en 1955. Sauf chez nous, Maxime Le Forestier dresse le portrait d'un homme décidément à part.
Maxime Le Forestier, sur scène, au Sentier des Halles à Paris, chante Brassens, à qui il doit beaucoup.
Il y a 195 chansons qui donnent quand même la vision qu'avait Brassens de la condition humaine, mais sans faire chier personne, avec des petites chansons, avec des petites mélodies, avec de l'humour, avec des petits personnages, des petites marinettes, des gros léons, des gorilles, des juges, des flics, et des curés, des religieuses. Des fois ils sont gentils, des fois ils le sont pas.
Pourtant, je remarque que les chansons trop chantées finissent par s'user, comme les histoires qui ont trop servi. Ça s'émousse et ça n'évoque plus rien.
Les compositeurs classiques, souvent pendant les 50 années après leur mort, on les oublie, puis après on les redécouvre. Là, Brassens, j'ai l'impression que c'est continu, parce que c'est peut-être de la musique populaire, et que c'est le peuple qui décide.
Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues.
Maxime sur un de ces Le Forestier que vous pourrez entendre effectivement dans un tout sonore diffusé sur Europe 1, extrait de Georges Brassens, J'ai rendez-vous avec vous.
Voilà, il a chanté pratiquement tout Brassens, Maxime Le Forestier. Il a fait ça il y a 25 ans pratiquement, mais l'album, lui non plus, il n'a pas vieilli. Les reprises par Maxime Le Forestier. Merci Christophe Lamarre, vous revenez tout à l'heure à 8h30.